ABCD. Ça va? Alors, rebonjour. Bonne humeur? Ouais? Non, non, ça veut pas dire que je suis un cadeau, là. C'est pas ça que ça veut dire, ça, là. Vous savez, il y a des petits pamphlets, des fois, qui nous touchent, hein? Je l'avais lu l'année passée, je l'ai relu cette année, puis ça m'a touché encore plus. Surtout l'introduction. C'est Radio Bible Class qui fait ça. Et ça commence comme ça. Je suis un passionné de Noël, à tel point que j'aime tout ce qui s'y rapproche. Les arbres, les lumières, la nourriture, les cadeaux, les chants, la nourriture, les célébrations, les traditions, la nourriture, les occasions d'adorer Dieu. Wow! J'ai donné ça à mes contacts cette année. Il y en a deux qui acceptaient de le prendre. Quelle période! J'étais zèleuse hier, puis on cherchait des choses. Puis il y a cette petite musique-là. Vous avez remarqué dans les centres d'achat, la petite musique-là qui vient nous chercher. Là, la nostalgie, tu sais, arrive, là. Et puis là, tu dis en toi-même, là, wow! Puis là, tu as envie de sortir le fric, puis acheter un beau gros cadeau, là, puis créer de la joie, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, la Bible dit. Et c'est merveilleux. C'est quoi Noël? Bien, en 1931, Coca-Cola a popularisé ce bonhomme. C'est un fameux dessin en Amérique du Nord, en tous les cas. On n'ira pas à Constantin 313 avec tout l'aspect des deux Babylones là, que Bishop a écrit. Mais pour l'Amérique du Nord, là, pour nous, on connaît ça, ce bonhomme-là. Hein? Ça a été popularisé, il y a eu toutes sortes d'événements avec lui. Et puis, on nous dit, en fin de compte, que c'est une nouvelle espèce en disparition. En 2011, imaginez-vous qu'un sondage léger vient nous dire qu'il n'y a pas rien que les ours polaires qui sont en train de disparaître, le Père Noël avec. Fait que si vous pensez que le Père Noël est en santé, là, Alors, comme c'est l'habitude de Jean-Marc Léger, il a fait 10 commandements de Noël. Je vais vous les lire rapidement. Il y a des commentaires dans ça qui est intéressant, mais en tous les cas, si vous voulez le lire, je vous le prêterai après. Les 10 commandements de Noël. Regardez le titre. Noël est de moins en moins une fête pour les chrétiens et de plus en plus une fête pour les crétins. Voici les 10 nouveaux commandements de Noël des capitalistes. Noël, tu dépenseras. Je ne lirai pas le bout parce que je n'ai pas le temps, mais tout avec des statistiques, puis il justifie tout ça. Courir, tu feras. Ça c'est vrai. Hein? Dernière semaine qui s'en vient, là, garde bien le monde, tu vas courir. Troisième commandement. À tous, tu penseras. Les gens donnent en moyenne 7 cadeaux dans le Québec. Quatrième commandement. En ligne, tu seras. De plus en plus, les gens en jettent en ligne. Cinquième commandement, crédit, tu utiliseras. Et ça, mes amis, là, c'est intéressant. 64% des gens utilisent leur carte de crédit pour acheter des cadeaux de Noël. Sixième commandement, rabais, tu chercheras. 59% des gens recherchent les rabais. Il y en a 13% qui vont attendre le Boxing Day le 26 décembre. Il y en a-tu ici qui attendent le 26 décembre? Il y en a 13%. À ta famille, tu donneras. 93% des gens donnent des cadeaux à leur famille, 44% à leurs amis et 10% à leurs collègues de travail. 8. Vacances, tu prendras. 44% des gens prennent des vacances cet hiver. 22% profitera des fêtes. Alors que 11% attendra au mois de mars-avril. Ah, il y a des stratégies dans ça. Hein? 9 viennent commandements de Noël. Chauffer la couenne, tu feras. J'ai pensé à un de mes amis qui chauffe la couenne, qui va aller chauffer la couenne. 23% iront chauffer la couenne au soleil. le 10e commandement, des maux de tête, tu auras. J'ai pas pu m'empêcher de vous le dire ça. Parce que, dans le fond, je crois que l'Église va être un phare, va être une voix qui va garder la vraie signification de Noël au Québec. Et peut-être vous chantez des cantiques que vous avez chantés toute votre vie. C'est redondant, peut-être, pour certains. Certains, ça rappelle des souvenirs. Et j'espère qu'on va continuer à se rappeler de la vraie signification de Noël. Qu'on ne sera pas embarqué dans sa torpeur ou ses priorités qui dépassent, à fin de compte, le vrai pourquoi de ces fêtes que nous prenons. On le sait que c'est symbolique, Noël. On sait que ça vient de Constantin 313, qui ont rentré des fêtes du paganisme dans le christianisme de l'époque. Mais culturellement, au Québec, Noël, c'est quoi pour un Québécois? C'est la messe de minuit d'autrefois, qui encore existe. C'est Joseph, c'est Marie. C'est un petit bébé qui est dans une crèche. J'entendais quelqu'un à la radio qui disait cette semaine, elle se promenait d'un centre de chant à Montréal, puis son petit gars, il regardait une crèche. Il dit, « Maman, maman! » Il dit, « Garde le Jedi! » Garde le Jedi. C'est là que c'est rendu Noël dans notre société, frères et sœurs. Et j'espère que ce n'est pas dans l'Église de Dieu. Parce que Noël, c'est une occasion en or pour témoigner la venue de notre Sauveur sur cette terre. Et là, ce matin, écoutez, attendez-vous pas là, de sortir ici avec votre calepin théologique rempli de notes, des choses que vous n'avez jamais entendues, puis des citations du 17e, du 16e, puis du 15e siècle. C'est pour ça qu'il va arriver un matin. Mon but un matin, là, c'est qu'on puisse ensemble réfléchir sérieusement sur ce temps des fêtes. Un temps où ce que... Et j'ai dit le temps des fêtes, avoir marqué. Parce qu'on ne faut plus dire, là, joyeux Noël. Il faut dire, c'est le temps des fêtes. Vous savez ça, hein? Politiquement correct. On est dans un siècle, dans une société post-chrétienne. Et si nous, dans ces temps-là, nous ne profitons pas de ces moments pour clamer haut et fort la vraie signification de Noël, selon la Bible. Oui, on prend ce véhicule qui est Noël, mais on profite aussi de cette fenêtre dans notre culture québécoise. Et j'avais des contacts, il y avait une ligne. Vous savez, j'ai un ministère maintenant au McDonald's. Il y avait une ligne de personnes qui lisent le journal là, le matin, très de bonne heure, en passant. Il y en a deux qui ont accepté de le prendre. Puis j'aime bien le titre, hein? Marie et Joseph. Et c'est très bon, si vous voulez le partager avec quelqu'un. Mais quelle belle opportunité! J'aimerais vous persuader ce matin, c'est une très bonne opportunité de partager le Sauveur. Partager Dieu fait un. Et j'ai ressorti, à fin de compte, 5 messages. Les 5 plus grands messages de Noël. C'est-à-dire, j'ai ramassé pour moi, là, je vais le partager avec vous, les 5 choses principales que j'aimerais dire à Noël, qui sont bibliques, catégorie biblique. Le premier, c'est la promesse du Messie. Ça, c'est la première chose. Le Messie est arrivé sur la planète Terre. On connaît toute cette histoire-là qu'on entend depuis qu'on est enfant, qu'on va chanter, qu'on va voir ce soir dans ce spectacle de Noël avec une collation, hein, Diane? Mais on va souligner d'une manière forte la promesse du Messie. Et cette promesse commence dans la Bible. Genèse 3:15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Et entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Première prophétie concernant le Messie faite à la femme, la postérité de la femme. Une promesse que Dieu a faite, que Dieu va intervenir dans cette rébellion que l'homme est en train de vivre contre son Créateur. Quelle belle promesse! C'est aussi une promesse qui vient au travers de la Bible dans les siècles. J'ai choisi Genèse 49-10, où Judas est le pacificateur. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Dieu a choisi Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne, le Shiloh, c'est le pacificateur. Hébreu veut dire tranquille. Le pacificateur, celui qu'on va appeler le prince de paix, va venir. Et que les peuples lui obéissent. Ça continue cette promesse, on le voit dans le Cantique de Marie, que vous connaissez tous. Le Cantique de Marie, Mère de Jésus, puis j'ai fait exprès de mettre Mère de Jésus. N'ayons pas honte de dire que Marie est la Mère de Jésus. Et vous connaissez ces fameux versets, 47, 46 et 47, regardez. Et Marie dit, « Mon âme exalte mon Seigneur, mon Maître, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Marie a une histoire, surtout au Québec, si on sait présenter Marie, Mère de Jésus, c'est un message de la venue de Jésus sur la croix. C'est un message de la venue de Jésus sur cette terre. C'est un message qui concerne le ministère de Jésus. Un autre aspect à la promesse du Messie, c'est Siméon et la prophétesse Anne. Regardez ces beaux textes. C'est un grand texte, mais j'ai choisi ces versets. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Oint, le Seigneur. Siméon était un homme qui avait eu une promesse de Dieu. Puis Dieu lui a dit, tu vas voir de tes yeux le Oint, le Messie. Et on lit ici au verset 28, pour Anne, c'est la même chose. On connaît ces histoires-là. Une femme pieuse, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous parce qu'elle était témoin de ces choses. Quel exemple! Centré sur la promesse du Messie, la promesse qu'un jour Dieu lui-même va venir régler le problème de l'humanité. Deuxième message, c'est Dieu est devenu un vrai homme. Et ça, c'est très difficile à accepter. L'incarnation est très difficile à accepter. Dieu est devenu un vrai homme, 100% homme, 100% Dieu. L'homme parfait de Dieu est le Dieu parfait de l'homme. C'est Jésus-Christ. Et on voit dans nos textes de Philippiens que nous connaissons. Quel beau message de Noël! Lui qui était Dieu lui-même n'a pas regardé comme quelque chose à retenir à tout prix. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Tenté en toute chose, mais jamais qu'à pécher. C'est pour ça qu'Hébreu nous dit qu'on peut s'approcher de lui avec confiance, parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Jésus, sans nature pécheresse, a été tenté et a résisté à la tentation. Le contraire d'Adam et Ève, hein? Avez-vous déjà pensé à ça? Adam et Ève, il n'y avait pas de nature pécheresse en mode péché. Avez-vous pensé à ça? Pensez à ça. Le second Adam, Jésus, mais pas de nature pécheresse, puis lui, il n'a pas péché. Et comme le péché est entré, Romains 5, 12, hein, on a vu ça dans les études. Romains 5, 12 nous dit, comme le péché est entré dans le monde par un seul homme, la grâce et la vérité est entrée. Quel beau message! Le Créateur du ciel et de la terre s'intéresse à vous personnellement. Il s'intéresse à vous. Au point que il a dit non. Puis là, je fais une parenthèse. Dieu aurait pu débrancher l'univers comme vous débranchez une télévision. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il a fait des promesses. Puis il tient sa parole. Puis il est venu dans un état. Regardez le trône de grâce dans votre imagination spirituelle. Là. Regardez le trône de grâce. Regardez la beauté du ciel sans péché. Puis regardez un état. Puis vous allez comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Le troisième message, pour moi, ce qui est important, puis on l'a chanté ce matin, c'est les anges témoignent pour Jésus le Sauveur. Et c'est intéressant, on voit l'ange Gabriel, hein, n'est-ce pas? On connaît l'histoire. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naît de toi sera appelé quoi? Fils de Dieu. On voit aussi les anges dans Luc 2, 8 à 14. Et il y avait à ce moment, dans cette contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et regardez ce qui arrive. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ça arrive des choses d'extraordinaire. Ça fait partie de l'histoire de Noël. L'intervention des angélios, c'est-à-dire des messagers de Dieu, des anges de Dieu, qui sont venus sur cette planète Terre signaler la présence du Créateur du ciel et de la terre. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, l'Évangile, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Le message divin. On voit aussi, c'est aujourd'hui dans la ville de David. N'oublions pas ces grandes vérités qu'on entend depuis notre tendre enfance. Attention que ça vous tombe sur le dos comme sur l'eau sur le dos d'un canard. Laissez pénétrer la vraie signification de Noël dans vos cœurs, dans nos cœurs. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur qui est Christ. Le Seigneur. La vraie signification de Noël, c'est pas d'emplir nos cartes de crédit le plus vite possible. C'est pas le signe de Noël, ça. Et voici à quel signe vous reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. La venue du roi des rois, du Seigneur des Seigneurs, sa planète Terre, dans une étape. Quel contraste! Et là, on voit, avec l'aspect angélique du message de Noël, et soudainement, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant ceci. Regardez bien la citation. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. » Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée, qu'il a choisi. Paix sur la terre à ces hommes, qu'il accepte, qu'il cautionne. Le quatrième message de Noël, c'est Jésus et Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est intéressant, on arrive là. Regardez comme il faut le texte. Car un fils nous est donné. Voyez-vous, on ne lit pas. Car un fils nous est né et un enfant nous est donné. On va marquer, c'est pour ça qu'on lit. Regardez comme il faut le texte. C'est qui est marqué? Car un enfant nous est né. OK? Et un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Un fils nous est donné. Et là, on rejoint Jean 3,16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a quoi? Donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, l'attente merveilleuse de l'intervention de Dieu pour régler le sort de l'humanité a été prophétisée quelques 800 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe le prophète nous le dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe 9,5b dit, on l'appellera. On l'appellera. Lorsqu'il va arriver, on va l'appeler admirable conseiller. On ne peut pas aller auprès de personnes plus admirables dans les conseils que Jésus lui-même. Peut-être vous vivez des choses. Peut-être vous avez besoin de conseils. Il y a des hommes sages, il y a des femmes sages qui peuvent nous aider. Mais savez-vous, lorsque vous regardez Jésus, et quand je dis regardez Jésus, qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux pas dire qu'il apparaît devant moi, là, comme dans Star Trek, là, puis il vient en personne. Là. Lorsque vous regardez les évangiles, lorsque vous observez Jésus, la manière qu'il parle, la manière qu'il agit, avec ses amis, avec ses ennemis, avec le pauvre monde. Être transformé à l'image de Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Dieu, peut-être vous dites dans votre cœur ce matin, moi j'ai des projets pour Dieu. Moi, là, j'ai une vision là, écœurante. Là. Le Québec va presque tout se convertir, Dieu voulant, naturellement, pour être biblique. Et puis là, moi, là, j'ai des projets, puis des projets, puis des projets. Mes frères et sœurs, je n'avais des projets, moi. Puis, savez-vous ce que Dieu m'a montré? Que le premier projet de Dieu, c'est vous, c'est moi. Le premier projet que Dieu a, là, c'est vous. Ce n'est pas vos projets pour lui. Êtes-vous prêt à coopérer avec Dieu? Dans les projets qu'il a pour vous, pour moi? Est-ce que je suis prêt à coopérer avec Dieu, moi, pour les projets que Dieu a pour moi? Quoi faire dans des affaires compliquées, complexes? Aller à l'admirable conseiller. On va l'appeler un admirable conseiller. Je crois qu'on n'étudie pas assez les évangiles, les synoptiques, puis Jean et tout, pour voir le caractère du Seigneur, les paroles du Seigneur, les agissements du Seigneur, sa manière qu'il voyait les choses. On va l'appeler Dieu puissant. Et on voit ça dans Jean, hein? Jean surtout, là, quand il, Jean 8,31, hein? Lorsque il parle, là, puis avant qu'Abraham fût, hein? Jean 8, 59, je crois. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, ils veulent le tuer. Ils veulent le tuer, pourquoi? Parce qu'il se dit Dieu. Il se dit Dieu. Et c'est intéressant lorsque on voit dans 8 ici, 8, 58, 59, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis, ego emi. C'est pas j'étais, c'est je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha. Ah, Jésus se cache? Poule mouillée. Ah, il se cache, Jésus. Ouais, il y a un temps pour se cacher. Il est sorti du temple. Il y a un temps pour sortir du temple. Intéressant, hein? Il aurait pu lever les mains dans les airs et dire au bec, tout, figer l'image. C'est Dieu. Il n'a pas fait ça. Parce qu'il a décidé de ne pas exercer ses attributs moraux, non moraux. Ben, je ne pourrais pas dire ça. Les attributs moraux, ils exercés. Mais je parlerais des attributs non moraux, comme son omnipuissance. Il aurait pu claquer des doigts et les faire disparaître. Il n'a pas fait ça. C'était Dieu qui était venu. Il était un vrai homme. C'est très important de réaliser que le message de Noël nous dit cela. Dieu nous dit qu'il va venir lui-même régler les choses. Et lorsqu'on voit ce que Jésus a fait, les guérisons, lorsqu'il a ressuscité les morts, lorsqu'il a parlé comme aucun homme n'a jamais parlé, on réalise et on se vire de bord et on dit « c'est Dieu ». Et savez-vous les sectes qu'ils ont en commun? J'avais une chatte à la maison avec les sectes. Savez-vous ce qu'ils ont en commun les sectes? Ils disent tous que Jésus n'est pas vraiment Dieu. Ils disent « dénature Jésus-Christ ». Ils vont dénaturer Jésus-Christ. Certains vont dire « c'est l'ange Gabriel incarné ». D'autres vont dire « c'est un esprit de Christ qui a saisi Jésus au baptême de Jean-Baptiste. » Puis lorsque Jésus a été crucifié, le Christ est parti, puis c'est rien qu'un homme Jésus qui est mort. Il y a la théorie des deux jumeaux. Il y a toutes sortes de théories. On veut dénaturer Jésus-Christ. On ne veut pas dire que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu puissant. Et pourtant, on l'appelle Dieu puissant, nous, le peuple de Dieu. Quatrième, on voit troisième, c'est-à-dire c'est Père éternel. C'est intéressant, hein? On l'appellera Père éternel. Souvenez-vous des voix qui viennent du ciel qui disent « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance. » Quand Jésus dit « Je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, je l'ai vu dans mon Père. Je l'ai fait pour mon Père, pour la gloire de mon Père. » Vous voulez voir ce que le Père fait? Regardez ce que Jésus fait. Examinez la vie de Jésus. Et vous allez voir le Père. Qu'est-ce qu'il dit? Montre-nous le Père! Jésus, montre-nous le Père! Hey! Depuis le temps, je suis avec vous autres. Vous n'avez pas vu le Père encore? Vous remarquez? On va l'appeler Prince de la paix. Un nom violent. Le prince de la paix. Injurié ne rendait pas l'injure. Maltraité, ne maltraiterait pas. Insulté, il n'insultait pas. Calomnié, il ne calomniait pas. On médisait de lui, il ne médisait pas. C'est ça qui ressemble à Jésus. Transformait l'image de Jésus-Christ. Et c'est intéressant, Isaïe 7, 14. Encore une prophétie, voyez-vous, dans l'Ancien Testament qui nous rappelle un sens de Noël qui est très précieux pour nous comme chrétiens. Et je lisais, Edersheim nous disait à propos de ce texte-là que dans l'Ancien Monde, dans le judaïsme, le rêve de toutes les jeunes juives, des jeunes filles vierges, c'est d'être celle qui va porter le Messie. Et c'était tout un privilège. Et là, on voit dans ce contexte, d'Isaïe 7, Achaz ne veut pas de signe. Il fait son petit pieu, là. Oh, on ne veut pas de signe. Tu n'en veux pas m'entendre donner un signe pareil, Achaz. Parce que Judas a été choisi. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un enfant? Non, un fils. Et elle lui donnera le nom de quoi? Emmanuel. Ça, c'est un des piliers des messages de Noël, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi, Emmanuel? Tout le monde le sait, j'espère. C'est donc important de réfléchir tout cela, mes amis, frères et sœurs, puis réaliser que le vrai message de Noël, il ne faut pas se le faire voler par le monde. Ils nous ont volé toutes sortes d'expressions, le monde, là, mais il ne faudrait pas se faire voler ça. Bibliquement, que veut dire Noël? Dieu avec nous. Dieu a décidé de venir planter ses deux pieds sur la planète Terre qu'il avait créée lui-même. La cinquième, pour terminer, et ça c'est important, qu'il y a tellement de quantités. Il y a même, j'ai vu sur Walmart, avez-vous les CD de Noël qui est sorti dernièrement? Des chansons qui sont chantées. Il y a comme un regain, qu'on dirait. Hein? Ça, c'est à cause de la poussée islamique, car avec les valeurs islamiques, là, on veut faire une poussée chrétienne, avec des valeurs chrétiennes. Et puis là, on commence tranquillement. Il y a quelques artistes qui ont décidé de chanter, même ici, à la cathédrale, je crois que c'était ici, des acteurs des chanteurs qui ont commencé à chanter des vieux cantiques de Noël. Même l'heureux qui était à Tout le monde en parle l'autre dimanche, il disait que lui, il fait du bénévolat, puis à tous les ans, il chante Minuit chrétien. Et s'il y a un cantique qui est théologique, c'est bien Minuit chrétien. Hein? Il est-tu beau, Minuit chrétien? L'aimez-vous, vous autres aussi? Faites un petit signe de tête pour voir si vous êtes. Ceux qui ne l'aiment pas, là, on vous pardonne pareil. Le pourquoi. Pourquoi qu'il est venu? Pourquoi? Il n'aura pas pu choisir une autre manière? Non. Et c'est là que ça nous touche plus profondément, nous chrétiens, parce qu'on est les seuls qui peuvent vraiment le réaliser. Ça. On peut vraiment le réaliser à sa pleine valeur. Puis encore. Vous savez, Jésus arrive devant Jean le Baptiste, puis il voit Jésus. Il vit Jésus venant à lui, il dit, en le voyant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que c'est compliqué? Très compliqué, ce verset-là. Premièrement, l'agneau de Dieu. Là, on va dans l'Ancien Testament, nous autres, on voit qu'il y avait tout un rituel avec la Pâque, l'agneau sans défaut, sans tache. Ensuite, on est privilégié de savoir ça. Hein? Mais la métaphore, là, et là, on va reculer dans l'Ancien Testament. Abraham, on n'a pas le temps, là, il reste 5 minutes. Et là, on va voir que Isaac, pourquoi pas sacrifier Isaac à la place de Jésus? Ça va pas faire pareil. Pourquoi? Ça n'a pas marché. Parce qu'il y avait une nature pécheresse. Puis quand Isaac a dit à son père Abraham, « Hey, Abraham! Papa! » Peut-être qu'il a dit « Papa! » Où est l'agneau? Où est-ce qu'il est, l'agneau? C'est quoi la réponse d'Abraham? Vous la savez? Lui-même, son ami. Rappelons-nous de ces choses, frères et sœurs. C'est la signification de Noël. Et qu'est-ce qui était pris dans le buisson? C'est-tu une brebis qui était pris? Dis-le fort, Guetta. Merci. L'agneau est arrivé. Et Jean-Baptiste dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Si vous n'êtes pas chrétien ici ce matin, ça ne vous dit pas grand-chose, ça. Mais ceux qui ont été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ, laissez-moi vous dire quelque chose, ça touche une corde sensible. Parce qu'on est des pécheurs pardonnés par la grâce de Dieu. Et par la foi seule, dans le sacrifice seul de Jésus-Christ, on est devenu enfant de Dieu parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Puis il nous réduit notre problème. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a pas d'autre. Il fantasme Jésus, hein? Peut-être vous êtes ici ce matin pour la première fois, puis habituellement, quand vous n'êtes pas, vous n'avez pas lu le Nouveau Testament, vous pensez, ah ben, tous les chemins sont bons, tous les chemins mènent à Rome. Si t'es sincère, t'es correct. Tout le monde fait son possible. En autant que tu as de l'amour pour tout le monde, tu es correct, fais pas de tort à l'autre, tu vas être correct. si t'en fais assez, tu vas être correct. Tu as toutes sortes de pensées, comment sauver mon âme, comment être correct avec le Créateur du ciel et de la terre. Mais la Bible dit, écoute, jette tout ça aux poubelles, il y a juste une manière. Il n'y a de salut en aucun autre. Et c'est pour ça que c'est important, Noël. Parce que c'est unique, la venue de Dieu sur la planète Terre. L'incarnation. Il n'y en a pas d'autre. Regardez ces cinq promesses pour terminer. La promesse du Messie. Et ça, c'est dans la Bible, de A à Z. Dieu est devenu un vrai homme. 100% homme, 100% Dieu. Il peut nous comprendre, on peut s'approcher de lui. On voit toute l'armée des cieux, le témoignage des anges de Jésus le Sauveur. On voit toute l'armée des cieux qui viennent cautionner, appuyer, témoigner la présence de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Dieu avec nous, Emmanuel. Quel privilège. Celui qui nous a fait est près de nous. À la portée de la main. Puis la motivation de Dieu, ce qui a motivé Dieu. Pourquoi il est venu? Il est venu pour nous sauver. Il aime sa création. À fin de compte, si on veut résumer tout ça, ça part de la crèche, ça va à la croix. De la crèche à la croix. Et notre grand défi comme peuple de Dieu, ce matin, c'est de garder le vrai message de Noël. Culturellement, là, on profite de cette fenêtre dans notre culture québécoise pour sortir le message de la vraie signification de Noël. On parle de la crèche. Puis on parle de la croix. Parce qu'il est venu dans la crèche afin de monter sur cette croix par amour pour l'humanité, pour les siens. Frères et sœurs, on va être tous dans des parties. Moi, j'en ai un. La semaine prochaine, je vais être une sorte de rassemblement familial. Oui, c'est un party. Vous allez tous avoir des parties où... des fois, ça a une mauvaise signification, le mot party. Hein? Ça veut dire... tu sais? Allez. En tout cas, je ne dirais pas ce que je pense. Là, mais ce que je veux dire, des réunions de famille. Hey, c'est plus poli. Hein? Des réunions de famille. C'est en français. C'est ça. On va être tous dans des réunions de famille. Entre moi et vous, là, où est-ce que la place la plus difficile à témoigner notre foi? Dans les réunions de famille. Tu as tout dit presque ce que tu avais à dire. Hein? Avec les années, là, on ne sait plus quoi lui dire. Mais moi, je vois dans cette occasion-là une fissure. La porte est ouverte. Parce qu'on peut commencer ça en disant: Noël est une belle occasion pour moi personnellement de vous dire qu'est-ce que Noël signifie pour moi. Et j'aimerais le résumer en quelques mots. Pas un sermon de 45 minutes. Vous faites gâcher des morceaux de dinde, là. Surtout dans la famille, même là, ça se fait plus. Mais vous comprenez l'idée? Quelle belle occasion de dire voici ce que ça représente pour moi. Même si on les connaît tellement, nos familles, on sait que pour eux autres, ils s'en foutent comme dans l'an 40 pour certains. D'autres sont sur le bord. D'autres, ils nous respectent parce qu'ils voient qu'on ne boit pas, on ne sac pas, qu'on garde nos femmes. Mais comprenez-vous l'idée, là? Ils vont dire, ah, OK, c'est intéressant, OK. C'est quoi Noël pour toi? C'est pas donner de l'amour aux autres avec un cadeau? Oui, c'est peut-être ça culturellement, mais pour moi, personnellement, ça me parle de la venue de Dieu sur la planète Terre. Par amour pour moi. Je vous lance le défi. Puis c'est un défi pour moi encore, je vous le dis là, en Diane, ça ne sera pas facile nous autres. Hein? C'est Diane, parce que cette année, là. Cette année, ça va brasser. J'espère qu'ils n'écouteront pas ça. En tout cas. J'en ai quelques-uns ici que j'ai ramassés. Puis, si vous n'avez jamais lu ça, j'en ai quelques-uns. Les privilégiés qui vont venir ce matin ici en avant, je vais leur donner un petit dépliant, Marie et Joseph. Et vous pouvez peut-être le lire ou peut-être le donner. Et ça a l'air qu'on peut en avoir là, à Publication Chrétienne ou plutôt Radio Bible Class. Et Eric s'occupe de ça. Eric Desauniers, où es-tu? Il est là-bas. Eric, ça fait un plaisir de vous en avoir. Je vous dis que c'est très bien fait et ça se passe très, très bien en famille. Alors, on va prier pour terminer. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Et Seigneur Dieu, on a besoin de ton aide. Chacun de nous qui sommes ici ce matin. On a besoin de ton aide, Seigneur, pour qu'on puisse ensemble donner un bon mot pour toi, Seigneur, dans ces réunions de famille. C'est tellement difficile de témoigner ton nom, Seigneur. Ceux qui côtoient tellement souvent, qui nous connaissent, et qu'on a fait des gaffes bien souvent. La première fois qu'on a parlé du Seigneur, on a manqué de sagesse. Oh Seigneur, pardonne-nous. Répare les brèches, Seigneur Dieu, dans nos familles. Donne-nous beaucoup d'amour, de compassion. Seigneur, imprègne ton caractère en nous, Seigneur. Qu'on soit des conseillers, Seigneur, selon ta parole. Qu'on soit de ceux qui procurent la paix, de ceux qui donnent un mot pour toi dans un monde tellement bouleversé dans lequel on vit présentement. Et donne à ton peuple, Seigneur, ce désir ardent de garder la vraie signification de Noël, la venue de Dieu sur la planète Terre. À la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh, que ce soit.